13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je suis très heureux de vous retrouver en direct et jusqu'à 16h pendant une heure, comme chaque jour, accompagné, comme chaque jour, de ma caméra d'Omblin. Comment allez-vous,
ma chère ? Ça va bien. Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Bonjour. 7h, c'est la vôtre, comme vous le savez. Nous y parlons de vous, de votre histoire, de votre quotidien, car votre vécu nous intéresse. Choix de vie opposés, conflits autour d'un héritage, autour d'un divorce. Dans les familles, nombreuses sont les raisons qui peuvent créer des tensions et à terme, générer beaucoup de souffrance. Dans la fratrie, avec un parent, un enfant, quand non-dit et rancœur s'accumulent, on se fâche, on se réconcilie, on se refâche, mais le dialogue peut se rompre progressivement et définitivement et la communication devenir impossible. Pourtant, les thérapies familiales, le recours à une tierce personne comme un médiateur sont des solutions qui peuvent aider à apaiser les relations familiales. Alors comment renouer le dialogue? Comment conserver ce tissu familial, ce lien familial, conflits familiaux? Comment en sortir? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires, nous sommes là pour vous écouter.
Chaque jour au standard Europe 1, on vous attend avec plaisir le 39-21, 50 centimes la minute pour nous écrire. Le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 est à votre disposition, également Twitter, hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Sylvie. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Sylvie.
Bonjour Olivier, merci tout d'abord de nous recevoir.
Mais je vous en prie, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
J'ai 62 ans, bientôt 63, et je vous appelle de la région Pays de Loire, la région nantaise, un petit village qui s'appelle Samar-la-Jaille.
Oui. Alors, je sais que dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons avec votre mari Robert, qui a la gentillesse aussi d'être présent cet après-midi avec nous. Mais d'abord, parlons de vous, Sylvie. Vous êtes la mère adoptive de deux enfants qui sont aujourd'hui adultes. Quelles étaient vos relations avec eux pendant leur enfance et leur adolescence?
Alors, c'est bien entendu des enfants très attendus, puisque c'est une adoption. Sabrina est arrivée dans notre foyer en 83. Elle avait 8 mois et demi.
Oui.
Jérémy a suivi 2 ans et demi plus tard, en 85. Et bon, nous avions une relation très fusionnelle, puisque bon, c'était une démarche très, très, très attendue et très longue. Et bon, avec Sabrina, principalement, qui était la grande, une relation de coucounage permanent et d'attention permanente. Puisque bon, ces deux enfants étaient...
aimés, et j'ai l'impression, à vous écouter, que voilà, ils ont vécu, en tout cas, une existence à vos côtés heureuse. Alors, au début des années 2000, c'est Sabrina qui a donné naissance à deux petites filles. Pour le coup, vous êtes devenue grand-mère. Que représentaient ces naissances pour vous?
Léa est arrivée en 2002, en octobre 2002.
Ouais.
Sabrina avait 20 ans.
Ouais.
Elle m'a même demandé d'assister à l'accouchement, puisqu'elle était, elle était vraiment dans l'offrande de sa maternité, y compris de la naissance de sa fille aînée. Ça m'a comblé de joie. C'était un cadeau faramineux. C'était la naissance de ma petite fille. Et puis Inès est arrivée en 2005. Et là, je n'étais pas présente à l'accouchement parce que je gardais Léa. Mais bon, la relation était tellement forte que bon, ma fille faisait fréquemment appel à moi et je me disais, mais c'est merveilleux de vivre une telle histoire. C'est fabuleux, quoi.
Hein. Ouais, et vous êtes devenue grand-mère et on sent combien cela vous a ravi. Mais en 2007, vous avez épousé votre nouveau conjoint, qui est votre mari aujourd'hui, Robert. Et là, les relations ont eu tendance à se gâter. Que s'est-il passé exactement?
Je dirais même qu'en 2003, quand Robert a vécu avec moi,
oui.
Sabrina a changé. Je pense qu'elle a pris ombrage, elle a pensé que Robert prenait une partie de mon cœur. Et même s'il était elle-même maman et qu'elle n'était plus dans mon domicile, je sentais qu'elle détendait les liens, même si elle laissait toujours ses filles et qu'elle parlait beaucoup avec moi.
Oui.
Et en 2007, à l'annonce de notre mariage, puisqu'on s'est marié en 2007, là... carrément, bon, ça a été l'abandon dans sa tête et dans son cœur. Et là, j'ai pas compris, quoi. J'ai pas compris ses réactions.
Et vous n'avez pas compris. Est-ce que vous vous entendez par là que vous n'avez pas su gérer exactement, parce que c'est compliqué, hein, de gérer les émotions d'un enfant, surtout un enfant en demande comme ça. On ne devine pas obligatoirement le besoin, en tout cas l'importance du besoin que Sabrina a pu avoir à ce moment-là. Est-ce que vous êtes passé à côté de certaines choses, de certaines demandes de sa part ?
Il n'y avait pas de demande de sa part, mais il y avait des codes que j'ai pas su évaluer.
Ouais, ouais.
Elle était elle-même en difficulté de couple. J'ai été présente autant qu'elle le demandait. J'allais à sa rencontre aussi souvent que possible, comme auparavant. Mais je pense qu'elle-même, elle a creusé l'espace entre elle et moi, puisque elle se sentit dépossédée de sa maman avec l'arrivée de Robert.
Mais comme vous l'avez dit, et c'est exactement ça que je vous demandais, certains codes, hein, parce que les enfants parfois pensent que l'on comprend les choses, et puis bien évidemment, on passe à côté. Donc, il s'est créé peut-être une sorte de fossé entre vous à ce moment-là, que vous avez fini par vraiment ressentir en 2010, puisque vous avez entamé une médiation familiale pour essayer d'apaiser les choses. Comment ça s'est déroulé, cette médiation familiale ? Ça vous a fait du bien à tous ?
Non, la médiation a été demandée de notre part, puisqu'elle a cessé de nous mettre les enfants en garde.
Oui.
Elle a détendu les liens et elle m'a dit maintenant que tu es mariée, je ne te reparlerai que le jour où tu seras divorcée. Et maintenant, tu n'as été que ma nourrice, que ma nourrice, et je vais t'appeler Sylvie. Donc, ça a été le coup de poignard.
Oui.
Et je vais te pourrir la vie. Bon, je me dis, elle est en colère, comme tout enfant, alors qu'elle était elle-même maman. Je me suis dit, bon, c'est un coup de colère, il faut que j'entende sa colère, mais oui. Je ne savais pas comment désamorcer cela. Et on a vu un avocat qui nous a dit, on peut faire une médiation et une tierce personne peut peut-être discuter et on peut peut-être remettre les choses à plat et renouer le dialogue. C'est ça qui manquait, le dialogue.
Oui.
J'étais prête, mais elle s'est repliée, elle n'avait plus envie de ce dialogue.
Mais malgré cette médiation, comme vous le dites, votre fille a refusé de vous laisser voir vos petites filles par la suite et vous avez alors cherché à faire valoir vos droits de grand-mère. Et à mon avis, là, ça a eu une autre dimension dans la tête de Sabrina, y compris dans la vôtre, puisque vous avez entamé des démarches pour voir vos petites filles. Est-ce que là, on se déplace sur un terrain encore plus glissant, dangereux dans les
c'est
relations
dangereux. Ouais. C'est dangereux, c'est douloureux, de part et d'autre, parce que la médiation est restée sans réponse. On s'est dit, l'avocat a dit, bon, est-ce qu'on peut voir si on... une démarche vers le tribunal va éclaircir la situation. Et là, je pense que les choses n'ont fait qu'empirer parce qu'elle s'est sentie attaquée, en fait.
Oui, oui,
et quand on parle de partie adverse, quand on parle de son enfant, ça fait très mal, c'est douloureux. Mais ça, c'était pour moi, mais je pense que ça a été pour elle aussi. Quand il a fallu justifier que j'étais, par des attestations, une bonne maman et une bonne grand-mère, c'est dément.
Oui, on tout à dit, coup, tout à coup vous êtes retrouvée, comme vous le dites, dans une partie adverse, en tout cas l'une contre l'autre, avec au milieu deux enfants, c'est-à-dire d'un côté une maman avec sans doute voilà, ses croyances et en tout cas son interprétation des choses, et puis vous, une grand-mère qui voulait voir ses petits-enfants. On va continuer à en discuter dans la deuxième partie de cette émission, Sylvie. On en discutera d'ailleurs avec Robert, votre mari, qui doit avoir une vue peut-être avec un peu plus de hauteur, peut-être, parce que quand on n'est pas dans le conflit, on prend souvent de la hauteur. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.
Europe 1. Quand des conflits familiaux, parfois lourds, perdurent, c'est votre histoire, venez nous la raconter au 3921. Vous réagissez sur Twitter avec le hashtag Europe 1 via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Quand les liens du sang ne suffisent pas pour que l'harmonie règne entre les membres d'une famille, vous faites face à un conflit au sein même de votre famille. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 3921, pour venir nous raconter.
Et nous sommes toujours avec Sylvie qui nous expliquait dans la première partie de cette émission que les liens avec Sabrina, sa fille adoptive, s'étaient distendus dans un premier temps, puis rompus suite au mariage avec son conjoint Robert, donc qui est devenu son époux aujourd'hui. Sylvie, vous n'avez plus de contact avec votre fille et vos petites filles aujourd'hui. Vous arrivez à comprendre les raisons de cette rupture, en tout cas d'une décision assez ferme de la part de votre fille, qui paraît définitive dans sa tête. Vous avez de l'espoir encore ?
Je me dis que j'ai semé de l'amour, j'espère récolter de l'amour, même si la récolte est tardive, ça veut dire le temps passé sera pas et c'est difficile, mais oui, et je comprends sa colère, parce que abandonner à l'orphelinat, puis abandonner à nouveau quand je l'ai retirée de l'orphelinat avec mon époux, elle s'est sentie à nouveau abandonnée quand elle a été elle-même maman et qu'elle a cru perdre sa maman avec Robert. Mais je pense que le dialogue aurait été nécessaire pour la rassurer, et je pensais que bon, elle était suffisamment adulte et mature pour comprendre de mes motivations et elle-même vivre sa propre vie à mes côtés, et ça aurait été merveilleux. Mais
est-ce que vous lui avez déjà dit cette phrase-là, que jamais dans votre cœur...
Je lui ai écrit.
Oui.
Je lui ai écrit, mais j'ai pas pu lui dire. J'ai pas pu lui dire parce qu'elle m'a pas laissé l'opportunité de le faire.
Alors, vous parlez de son conjoint tout à l'heure, en fait, d'une période où elle avait des difficultés. Cette jeune femme vivait aussi peut-être l'abandon des deux côtés. Hein, et finalement, vous avez fini par peut-être être considérée comme la fautive de tous ces échecs. Qu'en pensez-vous ?
Je pense pas avoir été fautive. Je pense que
dans sa tête à elle, Vous n'êtes pas fautive,
oui.
Hein, Sylvie.
Oui, je me suis quelque part culpabilisée de ne pas avoir été encore plus attentive, mais je ne pouvais pas faire plus que plus. Être moi-même, je l'avais toujours été. Elle avait sa place. Les enfants multiplient l'amour qu'on peut donner dans un foyer, et ça aurait été merveilleux qu'elle puisse le comprendre. Mais elle s'est
bloquée.
Elle s'est repliée. Ouais. Elle s'est repliée.
Alors l'année prochaine, l'aînée de vos petites filles sera majeure. Est-ce que vous pensez que le lien, à nouveau, peut passer par elle et qu'elle vous recontactera un jour, cette petite fille ?
Léa a beaucoup été présente dans notre vie, puisque Sabrina nous a laissé beaucoup. J'espère que toutes mes petites filles, parce que maintenant j'en ai trois, je ne connais pas, ouais. Sabrina a cinq enfants, j'espère que toutes mes petites filles, peu à peu, reviendront vers nous. Ne serait-ce que par curiosité de connaître cette nanou qu'elles n'ont pas vu ou qu'elles ont perdu de vue. Elles sont dans leur enfance, dans la construction de leur adolescence, et leur vie avec leur maman et le compagnon de leur maman. Je souhaite qu'elles soient heureuses, mais il y a un manque, parce que les racines, peuvent apporter les grands-parents, c'est essentiel à la construction d'un enfant.
Alors, vous pouvez me passer Robert, Sylvie ?
Pas de problème, merci beaucoup. Olivier.
Je vous en prie, je vous reprends tout à l'heure. Hein, enfin, on
merci.
Va se dire au revoir. Bonjour Robert.
Je passe Robert.
Merci. Bonjour Robert, vous êtes
Allô ?
Là ? Oui, bonjour Robert.
Oui, bonjour.
Bonjour
Olivier.
Bonjour. Vous vivez la même situation que Sylvie, hein, je crois, car votre fils ne vous donne plus de nouvelles de votre petite fille. De votre côté, comment est-ce que vous vivez cette situation ? Est-ce que vous en voulez à votre fils ? Comment ça se passe aujourd'hui ?
Écoutez, je crois qu'à partir du moment où un enfant coupe les liens avec ses parents, ou tout au moins son père, parce que je ne sais pas de quoi il en est par rapport à sa mère, mais bon, par rapport à moi, je lui en veux pas vraiment, si vous voulez, mais enfin, je déplore fortement cette attitude. Mais je vais quand même vous dire que la situation est complètement différente de celle que connaît Sylvie, parce que mon fils, en fait, c'est du jour au lendemain, ça a été le silence total.
Et vous avez une raison
Je pense un petit peu comme Sabrina, c'est lié sans doute à mon mariage, au fait que sa mère a peut-être très mal vécu la séparation, enfin j'en sais rien, il y a plein de raisons potentiellement admissibles, mais je ne connais pas le détail, il n'y a jamais eu d'explication, ça a été un discours rapide, nous l'avons invité à notre mariage en 2007, il a appelé en disant « je ne viendrai pas », je lui ai dit « bon, je peux comprendre ». Et puis il me dit « tiens, j'en profite pour te dire que les petites filles ont été baptisées ». Bon, je lui ai dit « bah, tu aurais pu quand même me prévenir, je pense que t'as pas été sympa, c'est pas normal d'agir comme ça ». Bon, il a raccroché et depuis, je n'ai plus aucune nouvelle, je ne sais même plus où il habite, je ne sais même pas où il travaille. Je le vis différemment, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas eu d'agression. Alors que Sabrina a fortement agressé sa mère, y compris dans la rue, y compris par coup de téléphone intempestif, y compris par message sur Facebook, ce qui n'est pas le cas de mon fils. Il est resté complètement absent.
Mais Robert, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions dans lesquelles les enfants ne parlent plus à leurs parents, et puis inversement, hein, ça peut être des parents. Je connais des proches dont les parents ont décidé de ne plus parler à leurs enfants pour diverses raisons. Ça reste une situation qui est particulièrement délicate et pas vraiment agréable à vivre. Même si je pense que vous vous resserrez tous les deux avec Sylvie et que voilà, vos histoires à chacun font que bien vous êtes soudés tous les deux à travers ces histoires.
Disons que ça nous a particulièrement soudés et l'amour que je lui porte n'a jamais été aussi fort que pendant cette période difficile.
Mais écoutez,
bon, bien évidemment, ça continue, mais oui. On fait face tous les deux à une situation fortement désagréable.
Et c'est peut-être, ça sera le mot de la fin, et c'est peut-être la morale qu'on peut tirer, en tout cas l'état des lieux que l'on peut tirer de cette histoire, parce que j'ai envie de vous dire, Robert, quand des adultes décident, pour multiples raisons, de ne plus parler à leurs parents, à leurs enfants, à leur grand-mère, à leur grand-père, mais moi j'ai tendance à penser, et là je donne mon avis, c'est rare que je le donne, mais je le donne un petit peu, j'ai tendance à penser que c'est leur décision et que voilà, finalement c'est eux qui se privent de quelque chose et que vous, si vous vous sentez à l'aise dans vos bottes, la vie fera le reste et sans doute l'un et l'autre, vous serez surpris par l'attitude des petits-enfants. Parce que quand les enfants arrivent derrière, ils ont une toute autre manière d'aborder les choses. Et quand ils finissent par aborder les choses avec leurs propres paramètres à eux, hein, leur propre caractère, leur propre nature, sensibilité, croyez-moi, eh bien, il y a une nouvelle donne qui s'opère. Et ceux qui ont fait la tête au début ne se retrouvent pas avantagés par ce type de situation. En tout cas, merci Sylvie et Robert pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans un instant, nous accueillerons Béatrice Copper-Royer. Elle est psychologue clinicienne spécialiste de la famille.
Europe 1. Les conflits familiaux, comment faire pour en sortir? Comment retrouver le chemin du dialogue? Vous nous racontez votre histoire, on vous écoute au 39-21 sur Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons des conflits familiaux quand ils empoisonnent les relations avec les vôtres et sont source de souffrance. Comment ça se passe chez vous? Venez nous raconter votre histoire au 39-21.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne spécialiste de la famille, qui a récemment fait paraître « Et la famille recomposée » aux éditions Solar. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Alors on a entendu le témoignage de Robert et de Sylvie.
Ouais.
Voilà, on sait que les conflits familiaux prennent leur source avec une invention, une inventivité parfois assez déconcertante. Ouais. Quels sont les principaux facteurs qui génèrent des conflits au sein des familles ?
Qui, de toutes les façons, les liens affectifs sont malheureusement chez nous humains dominés par l'ambivalence.
Oui.
Et l'ambivalence crée donc la coexistence de sentiments contradictoires d'amour et d'agressivité. Et dans les rapports familiaux, c'est très fort. Et il y a beaucoup aussi toute la question de la rivalité.
Oui.
La rivalité entre frères et sœurs, la rivalité entre filles et mères, la rivalité entre fils et pères. Et donc, il y a comme ça un climat très, très chargé, finalement, à la fois d'amour, mais de défiance, qui peut créer des conflits parfois toujours très douloureux et parfois violents.
Alors, bien sûr, on ne choisit pas sa famille, mais on l'entend. Hein, pourtant, les liens familiaux sont très importants, et je dirais même qu'ils sont, en tout cas, de ma part, sacrés. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, sont nos racines et que les nôtres sont toujours normalement être censés ceux qui doivent nous protéger. Comment peut-on l'expliquer que ces liens familiaux soient si importants, même si vous avez donné une partie de la réponse?
Parce que l'enfant naît avec un besoin d'être protégé et un besoin de sécurité. Le petit homme, il est absolument pas autonome. Le chemin de l'autonomie est très long, donc il y a des liens de dépendance et d'interdépendance qui se créent, et donc un rapprochement comme ça très fort. En fait, il y a beaucoup de dépendance, d'amour et d'échange. On est vraiment l'enfance construit dans la sécurité de ce lien-là. Et on voit bien quand il y a moins de sécurité combien il peut devenir vulnérable.
Oui. Et ces conflits familiaux ne sont-ils pas les conséquences de non-dits, de rancœurs développés justement durant cette petite enfance et donc depuis cette enfance?
Il y a, il y a des tas de choses possibles. Là, par exemple, j'entendais Sylvie parler de son lien à Sabrina, qui est une enfant qui a été adoptée, donc oui. Avec une histoire d'abandon à la clé. On voit bien que Sylvie a été dans un dévouement absolu
complètement.
Par rapport à sa fille, et que ce dévouement a peut-être été un peu long et a laissé croire à Sabrina, par exemple, que ça allait durer toute la vie et qu'elle serait toute puissante, qu'elle avait tous les pouvoirs sur sa mère. Et puis quand arrive un moment où finalement sa mère pense aussi à elle et à autre chose qu'à sa fille, notamment à son lien amoureux, Sabrina ne le supporte pas du tout et a des réactions tout à fait démesurées.
Alors, Béatrice Copper-Royer, vous êtes psychologue clinicienne. Est-ce que il vous arrive d'avoir une famille en psychothérapie et de l'aider à renouer le dialogue? Est-ce que la psychothérapie est la bonne solution ou elle est différente de la médiation familiale?
En tous les cas, les entretiens familiaux sont proches de la médiation familiale. C'est un peu différent, mais enfin, c'est quand même proche. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que on voit bien que dans ces conflits-là, il y a un moment où il n'y a plus de dialogue possible.
Ouais.
Et le tiers est là pour réintroduire une possibilité d'échange, c'est-à-dire apprendre aux gens à s'écouter et à envisager un point de vue qui n'est pas le leur. Ce qui est très, très difficile quand on est en conflit.
Certaines rancœurs, à votre avis, ne sont-elles pas impossible à enfouir? On pense au cas de Sylvie et Robert privés de leurs petits-enfants, mais voilà, dans les problèmes d'héritage, de succession, on voit certains frères et sœurs se déchirer avec oui. des comportements terribles.
Question du pardon, hein, est-ce qu'on peut tout pardonner?
Ouais.
Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment la réponse. Il y a des gens qui y arrivent, il y a d'autres qui n'y arrivent pas, qui vont rester dans le ressentiment. Je crois qu'on n'est pas non plus obligé de s'acharner, notamment par exemple avec des frères et sœurs, après une succession compliquée, etc. On n'est pas obligé de s'acharner à maintenir des liens qui n'ont pas de sens. Chacun fait son choix en fonction de son histoire, de ses besoins, de sa mémoire aussi, de ce qu'il a gardé de son enfant, de ce qu'il veut préserver de ces moments-là.
Oui.
Mais je pense que chaque histoire est singulière. Mais c'est vrai qu'il y a on voit des situations où il y a un point de non-retour.
Oui, et puis j'y pensais, encore une fois, c'est ce que ça dit de notre société, l'exemple de la famille parfaite, qui est aussi une pression sociale, l'image. Alors que dans notre entourage, nous avons aussi bien des amis pour qui la famille ne représente pas le schéma idéal, et qui se défont très rapidement et facilement de leur famille, et à contrario, des gens pour qui la famille est quelque chose d'emblématiquement, symboliquement très ancré, très important. Je pense qu'on va continuer à en parler dans le reste de cette émission. Béatrice Copper-Royer, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne spécialiste de la famille. Vous avez fait récemment paraître Et la famille recomposée aux éditions Solar. Vous allez continuer de nous accompagner et de nous éclairer tout au long de cette émission. Dans quelques instants, nous accueillerons Marine. On va voir avec Marine que le dialogue est rompu avec son père depuis maintenant un an et elle va nous dire comment elle le vit.
Europe 1. On parle des conflits familiaux, comment les résoudre, préserver le lien, apprendre à ne plus en vouloir à l'autre. Vous témoignez au 3921. Jusqu'à 16h, vous composez le 39-21 pour nous raconter votre histoire. Vous devez faire face à un conflit au sein de votre famille. Comment renouer le dialogue, apaiser les rapports entre les différents acteurs de ce conflit? Vous allez retrouver Olivier Delacroix. Auparavant, Mylène Farmer sur Europe 1 avec Des larmes. Extrait de son album Désobéissance, Mylène Farmer sur Europe 1 avec Des larmes. Comment affronter un conflit familial? Comment régler les crises au sein d'une famille quand les liens du sang ne sont pas suffisants pour apaiser les tensions? Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Et dans la première partie de cette émission, nous discutions avec Sylvie et Robert, des parents qui ne parlent plus à leurs enfants, en tout cas sur décision de ces enfants. Maintenant, on va parler avec Marine d'une situation inverse, puisque cela fait un an qu'elle n'a plus de nouvelles de son père. Soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Marine, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Marine?
Alors, j'ai 22 ans et je viens de Noiseau.
D'où ça, pardonnez-moi?
Noiseau. D'accord. Dans le 94.
D'accord, très bien. À la fin de votre adolescence, Marine, vos parents ont divorcé car votre père a rencontré une autre femme. Vous dites qu'à ce moment-là, il a multiplié les mensonges. Expliquez-moi, est-ce que c'était le mensonge à votre égard, surtout ?
Alors, en fait, oui, voilà, mes parents, ils ont divorcé au début de mon adolescence. Et oui, alors il a multiplié mensonge sur mensonge, que ce soit à mon égard ou à l'égard de sa propre famille, ses parents, etc.
Oui.
Du coup, à partir de ce moment-là, moi j'ai découvert certaines choses. Donc au début, il était sûr de lui en disant que non, c'était pas vrai, etc. Sauf qu'au final, il a fini par nous avouer en fait la vraie vérité. Mais par exemple, à l'heure actuelle, il n'assume toujours pas le fait qu'il ait menti sur plusieurs points.
Alors, est-ce que la nature de ces mensonges revêt une gravité particulière ? Parce qu'on parle de mensonges, j'aimerais bien que vous me précisiez, parce qu'il a fait plein de mensonges, mais sur quoi exactement ? Sur la relation qu'il avait avec sa nouvelle compagne, la nouvelle femme qui était rentrée dans sa vie, est-ce que ça concernait vraiment cela ?
Alors oui, au départ, voilà, il y avait des mensonges, on va dire, plutôt banal, enfin, qui n'avait pas vraiment de sens. Donc là-dessus, on ne pouvait pas trop en vouloir, même si un mensonge reste un mensonge. Et au fur et à mesure du temps, moi, j'ai découvert qu'il avait de nouveau quelqu'un dans sa vie,
oui.
Alors que mes parents, ça faisait que un mois qu'ils s'étaient séparés. Et au final, au début, ils nous disaient que non, sauf qu'après, en fait, on a trouvé une deuxième brosse à dents dans sa salle de bain, les draps, c'était pas ce qu'il avait au départ, etc. Donc à partir de ce moment-là, fallait vraiment se mettre devant le fait accompli qu'en fait, il y avait bien mensonge et nouvelle compagnie.
Alors visiblement, Marine, vous avez mal vécu cette situation et les mensonges de votre père, des mensonges à répétition. Vous ne vous parlez plus aujourd'hui depuis un an, c'est dû à vous ou à lui ?
Alors, en fait, on ne se parle plus depuis un an pour diverses raisons très compliquées. Au départ, donc, j'avais une copine avec qui j'étais très proche et à qui je me suis beaucoup confiée justement sur tout ce que je pouvais ressentir par rapport à la relation entre mon père et ma belle-mère.
Oui.
Ou même ma belle-mère pouvait me faire ou ce genre de choses. Donc, je me suis beaucoup confiée à cette copine. Et en fait, lors d'une dispute, elle a été tout racontée à mon père. Donc, ça s'est passé au mois de janvier-février de l'année dernière.
Oui. Votre copine ou votre belle-mère a été tout racontée à votre père ? Votre copine ?
Ma copine a été racontée, en fait, tout ce que je pouvais penser sur ma belle-mère et sur ce couple-là.
Oui. Sympa, votre copine, hein ?
Oui.
Ouais.
Mais à partir de ce moment-là, voilà, il y a eu un ultimatum qui a été fait par ma belle-mère à mon père. Donc, c'était soit il continuait à me parler à moi, soit il continuait, en fait, sa relation avec elle. Donc, le choix a été fait qu'il continue sa relation et que moi, en fait, il arrête de me parler.
Oui.
Et il est parti en vacances au mois d'août et au final, en fait, il s'est fait cambrioler et il m'a accusé de cambriolage.
Oui,
donc,
d'accord.
À partir de ce moment-là, en fait, vraiment, tous les ponts ont été coupés et voilà.
Que ressentez-vous à l'égard de votre père aujourd'hui et comment est-ce que vous vivez le fait que vous ne vous parliez plus aujourd'hui ? Parce que c'est ça qui est important, c'est ce que vous ressentez. Est-ce que ça vous rend malheureuse ? Est-ce que vous êtes devant l'incompréhension ? J'ai envie de vous dire après que un papa qui se sépare de sa famille momentanément, qui se sépare de la maman et qui entame assez rapidement une relation avec une autre femme, on peut en tout cas l'excuser de faire des mensonges quant à l'existence de cette femme pour ne pas blesser qui que ce soit et en premier ses enfants. Mais visiblement, ça dépasse bien tout ça, puisque vous me parlez d'accusations assez graves et d'une belle-mère qui semble assez manipulatrice. Comment est-ce que vous vivez tout ça ?
Alors, au départ, c'était très très compliqué à vivre. J'ai eu beaucoup de mal à accepter cette situation, surtout sur le fait de ne plus parler à mon père avec qui j'étais très proche durant mon enfance. À l'heure actuelle, j'ai vraiment fait un travail sur moi-même.
Oui.
Après, je ne dis pas que le travail est complètement fait, mais en tout cas, on va dire que j'accepte un peu plus le fait que je ne lui parle plus, même si des fois ça reste compliqué parce que je reste une jeune femme qui est en train de construire sa vie.
Oui.
Et que je trouve que c'est important d'avoir ses parents en fait dans la construction d'une vie future. Mmh. Après, j'ai toujours, comme je me dis, j'ai toujours le soutien en fait de ma mère, etc. Donc c'est ce qui me conforte.
Ouais. Et heureusement, j'ai envie de vous dire que vous avez le soutien de votre mère. Mais bon, on parle de cette rupture avec votre père et vous suivez actuellement une formation pour devenir médiatrice familiale. Et j'y vois peut-être une quête de votre part. Pourquoi ce choix, Marine ?
Alors, ce choix a été fait en fait depuis le divorce de mes parents. En fait, ouais. J'ai décidé de devenir médiatrice familiale parce que lors de la séparation, j'étais vraiment en fait au milieu de mes parents et j'aimerais aider en fait les familles qui sont dans la même situation que a été la mienne.
Ouais.
Et du coup, aider en fait ces familles. C'est aussi pour ça que actuellement je prépare ce diplôme-là et en parallèle j'ai un point en fait qui est avec ma mairie pour justement accueillir des personnes qui ont besoin d'être conseillées et orientées pour aller vers tout ce qui est la médiation familiale.
Mmh. Forte en tout cas de votre expérience, Marine, vous allez devenir sans doute une parfaite médiatrice familiale, en tout cas très efficace. Je rappelle que ces médiateurs et ces médiatrices familiales, on ne les connaît pas beaucoup, mais ils ont une importance vraiment capitale et qu'on peut les trouver assez facilement hein, dans les villes de moyenne et grande importance. Et que voilà, ces travailleurs sociaux sont là pour vraiment aider à renouer le contact et puis à accepter certaines choses. En tout cas, vous ferez une excellente médiatrice familiale, Marine, parce qu'on entend votre détermination et surtout que vous avez assimilé beaucoup de choses lors de ce conflit parental à l'origine. Merci pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans un instant, nous accueillerons Iris. Elle est rentrée en conflit avec son frère quand il a fallu s'occuper de la succession. Et on va voir de sa mère plus précisément.
Europe 1. Ce que vient de raconter Marine, ça vous parle ? On vous écoute au 39-21. Vous aussi, vous avez rompu le dialogue avec un parent, un membre de votre famille. Écrivez-nous via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Des souffrances liées à l'enfance, des jalousies, des séparations, des problèmes de succession. Vous êtes en froid avec certains membres de votre famille. Vous en parlez au 39-21 avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Iris sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Iris.
Bonjour Olivier.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Alors vous Iris, vous avez un frère de 4 ans, votre aîné. Vous dites que vous n'avez jamais été très proche de lui, mais que vous avez toujours essayé de créer un lien, surtout pour que vos enfants respectifs aient ce lien familial. Expliquez-moi pourquoi ça ne s'est pas fait.
Ça ne s'est pas fait, effectivement. Nous sommes une fratrie de 3 enfants. J'avais une sœur qui était donc très âgée par rapport à moi. Des parents donc, qui venaient de régions différentes, donc une famille très éloignée. Et c'est vrai que j'avais ce souci de maintenir un lien familial, au moins pour nos enfants.
Ouais.
Donc, je proposais à mon frère des réunions annuelles, puisque apparemment ce sentiment ne venait pas de son côté.
Oui.
Aujourd'hui, je fais le bilan que j'ai échoué.
Et vous avez échoué. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi vous avez échoué ? Cela tient à quoi, finalement ? À la nature de ce frère ? Est-ce qu'il est introverti ? Est-ce qu'il est jaloux ? Parce que parfois, cela peut être ça. Est-ce que vous en connaissez les raisons ?
Oui, j'ai beaucoup analysé le sujet et c'est vrai que dans toute notre jeunesse, en fait, il a une position, c'était le fils de la famille,
oui.
Donc il avait une position un peu particulière par rapport à nous, les deux filles. Cela dit, il n'y avait pas de jalousie de la part de ma sœur ou de moi. Par contre, lui avait tendance effectivement à isoler chaque personne et à raconter des choses pour nous maintenir éloignés.
Un peu divisé
donc
pour mieux régner.
Voilà, aujourd'hui, donc j'ai pu mettre un nom sur ce profil. C'est ce que l'on appelle un pervers narcissique ou quelqu'un de toxique.
Oui.
Et effectivement, ce profil s'est révélé donc au décès de ma sœur et de mon père il y a quelques années.
Oui, parce que je crois savoir qu'après la perte de votre père, votre mère est tombée malade et vous êtes entrée en conflit ouvert avec votre frère qui souhaitait carrément la placer dans un EHPAD. Et à cause de ce conflit, un juge a dû imposer la mise sous tutelle de votre mère. Ça a dû être difficile à vivre, cette décision.
Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé.
En fait,
mes parents habitaient en province. Ils étaient à la retraite en province, dans un endroit où on n'avait aucun membre de la famille. Et donc, ma sœur est décédée. Quelques temps après, mon père. Et donc, ma mère s'est retrouvée toute seule. Donc, je l'ai accueillie chez moi.
Oui.
Et au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que mon frère voulait gérer ce qui se passait avec ma mère à distance. Gérer ses comptes. Et puis, il avait dit ouvertement au notaire que je souhaitais spolier la famille, ce qui n'était pas du tout le cas. Et donc, s'en est suivi un harcèlement par mail, des surveillances sur Facebook, une intimidation.
Oui.
Et donc, un jour, ma mère, étant toujours sous emprise, a souhaité aller vivre avec lui.
Oui.
Donc, j'ai accepté ce choix avec beaucoup de crainte. Et effectivement, je n'arrivais pas à la joindre. J'ai contacté le notaire et c'est par le biais du notaire que j'ai découvert qu'au bout de 2-3 jours, il l'avait fait placer en EHPAD. N'a pas du tout demandé à ma mère ce qu'elle souhaitait, puisqu'elle souhaitait revenir vivre avec moi. Il l'a placé sous tutelle privée.
Alors, ce frère, visiblement, a toujours entretenu un rapport particulier avec l'argent. Cela s'est confirmé quand il a fallu s'occuper de la succession. Vous avez l'impression que les intérêts économiques sont toujours passés avant les liens familiaux et fraternels pour lui ?
Oui, plus ou moins, mais c'est une relation avec l'argent assez particulière dans ce sens où le but recherché n'est pas son enrichissement, mais plutôt l'appauvrissement de l'autre.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Le but, c'était que ma mère dépense tous ses biens dans le paiement de son hébergement, puisqu'elle n'en avait pas les moyens.
Pas, vous.
Voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait, puisqu'il a laissé les biens se détériorer. Voilà, donc c'est pas dans le but de s'enrichir, lui.
D'accord. C'est tout de même douloureux, sans doute, lorsque des liens familiaux sont gâchés, comme vous nous les décrivez, hein, vous décrivez cette situation. Et puis c'est grave, parce que au final, un frère et une sœur qui ne se parlent plus, qui sont éloignés, comme ça, pour les enfants, c'est quelque chose que j'estime grave, parce qu'on n'a qu'une vie. Vous pensez lui reparler à ce frère un jour ?
Non, absolument pas. Absolument pas, parce que c'est pas que nos liens entre nous deux qu'il a détruits. C'est toute une famille, puisqu'il a entraîné dans sa manipulation ses propres enfants,
oui.
Les enfants de ma sœur, beaucoup de monde autour de nous, puisque malheureusement, aussi grands soient ces mensonges, moi je vois maintenant, étant sortie d'emprise, à quel point ça peut être parfois grossier,
oui.
les gens sont tombés dedans, quoi.
Mm-hmm.
Jusqu'à l'EHPAD, jusqu'au tuteur, je me suis retrouvée face à un mur de mensonges.
Donc vous ne lui reparlerez jamais ?
Non, non. Et je angoisse le rendez-vous chez le notaire pour la succession de ma mère, parce que je ne sais pas comment ça se passera.
Mmh.
Puisque lorsqu'il a appris que ma mère était décédée, j'ai été harcelée et intimidée à nouveau. Alors que j'essaye effectivement, m'étant fait aider par un groupe de parole de violence psychologique, à ne pas justement rentrer dans ce jeu et à ne pas répondre pour ne pas maintenir cette perversion qui l'anime. En fait.
On sent combien, en tout cas, vous appréhendez ce rendez-vous chez le notaire. Vous ne pouvez pas vous faire représenter à ce rendez-vous. Je crois que vous êtes obligé d'y aller.
J'en sais rien du tout. Pour l'instant, j'attends. Je fais le deuil de ma mère, donc, puisqu'elle est décédée il y a très peu de temps.
Oui.
Et voilà, on verra bien. De toute façon, pour moi, l'argent, ce n'était pas un but. Mon but, c'était d'aider ma mère. C'était de lui offrir une fin de vie la plus douce possible. Or, malgré tout ce que j'ai fait, je n'ai pas pu y arriver. Puisque j'ai pas réussi à la faire entrer en soins palliatifs, alors qu'effectivement, sur les derniers mois, son état de santé s'est très dégradé. Et entendre sa mère demander à mourir, c'est terrible. C'est terrible.
Bah écoutez, je vous souhaite bon courage, Iris, et merci beaucoup pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1.
Merci, Olivier.
Et dans quelques instants, nous accueillerons Caroline, qui est en conflit depuis plus d'un an avec sa mère, et nous allons voir comment elle vit cette relation.
Europe 1. Comment surmonter les conflits familiaux ? C'est ce que vous vivez le 39-21 pour témoigner sur l'antenne d'Europe 1. Twitter pour nous écrire avec le hashtag Europe 1. Vous Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons des conflits au sein des familles, des reproches, des non-dits. Comment arriver à passer outre et à repartir sur de bonnes bases? On continue de vous écouter, d'échanger avec vous au Standard d'Europe 1. C'est le 39-21. Voici Oasis, les frères Gallagher et Don't Look Back in Anger sur Europe 1. Ne pas se retourner sur le passé avec colère. Voilà, Don't Look Back in Anger sur Europe 1. Oasis en 1996. Aujourd'hui, l'entente n'est pas véritablement au beau fixe entre les frères Gallagher. On parle justement des conflits familiaux. Comment s'en sortir? Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et pour conclure cette émission, nous sommes avec Caroline. Bonjour Caroline.
Bonjour Olivier.
Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Merci.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Caroline?
J'ai 38 ans, j'habite à Versailles.
D'accord. Alors vous Caroline, cela fait un an que les relations avec votre maman sont rompues. Que s'est-il passé exactement?
Alors en fait, je me suis séparée du père de mes enfants. Et en gros, elle a continué à voir mes enfants via mon ex. À garder des liens plutôt étroits avec mon ex, ce qui m'a pas trop plu. Ce qui a moyen plu aussi à mon mari, parce que je me suis remariée.
Oui.
Et aussi, le fait d'avoir ouvert les yeux sur ma mère, c'est-à-dire que je me suis retrouvée avec mon mari, avec quelqu'un qui me respectait. Et le fait que ma mère m'insulte régulièrement, etc., enfin, soit un peu méchante avec moi, ça m'a un peu ouvert les yeux.
Alors, qu'entendez-vous par des liens étroits avec votre ex? Elle est amie avec lui ou est-ce qu'elle a d'autres vues sur votre ex? Comment vous sentez les choses?
Non, alors elle est copine surtout avec sa mère, donc ouais. Elle se voit en dehors pour des
copines,
événements,
quoi.
Des choses comme ça, voilà, comme des copines. Et puis, elle continue, lui, à l'avoir en ligne régulièrement à propos des enfants.
Et est-ce que votre mère a été transparente avec les relations et les choses qu'elle échangeait avec lui, les événements qu'elle vivait avec lui? Est-ce qu'elle vous en a parlé?
Oui, elle est relativement transparente.
Oui.
Après, il y a des choses que je vois qu'ils s'envoient des photos, par exemple, que moi, je ne reçois pas sur les enfants.
Oui.
Donc, c'est pas toujours plaisir.
Vous vous sentez exclue de cette relation?
Je ne me sens pas forcément exclue, parce qu'elle n'a jamais trop cherché vraiment à couper les ponts. Mais je ne me sens pas respectée, en fait, dans ma séparation, en gros.
Est-ce que c'est une décision de votre part, Caroline, que vous ne vous parliez plus depuis un an?
Oui.
Et alors, vous nous appelez aujourd'hui, c'est que vous le vivez difficilement, même si c'est une décision de votre part?
Je le vis relativement bien, dans le sens où j'avais une relation super conflictuelle avec ma mère.
Ouais.
C'était tout le temps des réflexions méchantes. La dernière qui a déclenché la coupure, en gros, c'était « de toute façon, elle est bien mieux que toi » en parlant de la maîtresse de mon ex.
Ce qui est pas très sympa déjà.
Non. Elle est très sympa.
Elle est corsée, hein, votre mère. Hein. Elle y va pas de main morte, comme on dit. Alors justement, lorsqu'on est au contact d'une mère qui est toxique, on va dire comme ça, parce que on ne dit pas ce genre de choses à sa fille. Est-ce que ça vous a fait du bien depuis un an de prendre de la distance avec elle?
Eh bien, honnêtement, oui, parce que à chaque fois que je l'avais au téléphone, ça se terminait en mini-déprime.
Oui.
Même mon ex, hein, quand il voyait que je l'avais eu au téléphone, il rentrait le soir, il disait « Ah, tiens, t'as eu ton téléphone, ta mère au téléphone aujourd'hui, hein, juste en voyant ma tête. »
Oui.
Enfin, c'était toujours des petites réflexions méchantes qu'il ne fallait pas que je prenne mal parce que c'était dit pour rigoler ou, enfin, vous voyez, des excuses comme ça, quoi.
Et je voulais vous demander, Caroline, elle a toujours été comme ça, votre mère, ou ça a commencé avec votre relation avec votre ex-conjoint, ou depuis que vous êtes enfant, elle a toujours été méchante,
en fait,
finalement?
Elle a toujours été comme ça, mais moi je croyais que c'était normal.
On considère que c'est normal souvent, hein, quand on vit que ça, on est habitué.
Voilà, j'ai vécu que ça. Et quand j'ai rencontré mon mari, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui me respectait énormément, qui ne tolérait pas du tout la violence psychologique. Et qui m'a vite remis à ma place excusez-moi.
Il y a quelqu'un qui tire les cheveux de la petite.
Ouais. Il m'a vite remis à ma place quand je commence à lui parler comme ma mère me parle, en fait.
Oui.
Et là, j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte que c'était cette relation-là qui n'était pas normale.
Oui. Oui, parce qu'elle déteignait sur votre relation. C'est vrai. En fait, on entend que vous avez été habitué à certains codes de communication et donc à ce qu'on se parle mal. Et puis, lorsqu'on a entendu depuis tout jeune des insultes ou alors de l'énervement, on reproduit ça avec votre mari. Et vous n'êtes plus avec cet homme aujourd'hui. Vous êtes mariée, c'est ça ? J'ai bien compris ?
Voilà, je suis remariée.
Vous êtes remariée et elle ne veut pas voir votre mari, je crois. Hein. Le conflit vient de là aussi, parce que...
Alors, mon mari, elle l'adore.
Ah, votre mari, elle l'adore aussi. D'accord.
Ah oui, mon mari, elle l'aime beaucoup parce que il a l'image de l'homme parfait. Hein. Évidemment, il est parfait. Donc, il a une belle situation, il est très, très gentil. Enfin, voilà, il a toutes les qualités qu'on puisse attendre d'un homme. Et ça, elle l'a bien vu. Mais mon ex, quand même, ça reste un bon père, nanani, enfin voilà quoi.
Oui, bon, en tout cas, on aura compris que cette mère, depuis un certain temps, essaie de vous atteindre, essaie de vous blesser. Pourquoi
Elle préfère les hommes aussi.
Oui, hein. Oui, elle préfère les hommes, mais surtout, elle préfère les hommes de sa fille.
Oui.
Donc du coup, elle cherche à vous atteindre et vous blesser, et... peut-être, je vais m'aventurer à vous dire que d'avoir pris le large, ma chère Caroline, eh bien, c'est plutôt une décision assez sage, en tout cas salvatrice pour le moment, car j'entends qu'il y a des petits bouts autour de vous, et puis donc une maman heureuse, ça fait des enfants heureux, le contraire étant bon aussi. Merci en tout cas pour votre appel cet après-midi, très édifiant sur les rapports qu'une mère peut avoir avec ses filles, ou sa fille. Merci pour votre appel sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi. Merci à Sylvie, à Robert, à Marine et à Béatrice Copper-Royer pour ces éclairages. Au sein des familles, les disputes et les conflits sont fréquents, on l'a entendu, et entraînent parfois une rupture totale de dialogue. Alors si vous êtes un grand-parent en mal de vos petits-enfants, si vous êtes un parent ou un jeune en situation de rupture familiale et que ces tensions vous font souffrir, n'hésitez pas à faire appel à une tierce personne. L'écoute, l'échange et la négociation seront favorisés par la présence d'une tierce personne. Alors on a parlé d'un médiateur familial, mais on peut parler d'un psychologue aussi, pour que les conflits d'hier ne perdurent pas et que chacun puisse mettre des mots sur ce qu'il ressent. Partager, communiquer sont les maîtres mots, encore une fois, me direz-vous. Et la morale de cette émission, c'est qu'il faut toujours parler et communiquer et dire ce dont quoi on souffre. Et puis, on a toute chance d'être entendu par l'autre. En tout cas, si on ne dit rien, voilà, la conclusion est vite tirée. Vous pouvez, bien évidemment, continuer à en parler sur les réseaux sociaux.
Mais oui, dites-le nous via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, Instagram, Olivier Delacroix officiel. Et puis, Sophie Peters vous écoute le soir aussi si vous en avez envie, si vous souhaitez vous confier la libre antenne d'Europe 1 de 22h30 à 1h du matin.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble des séducteurs compulsifs, ces personnalités qui cherchent à tout prix à plaire. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de séduire en permanence, si l'un de vos proches est un séducteur sans limite, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire et nous serons là avec Ombline pour vous écouter.
Oui.
J'ai été ravi de passer cette heure avec vous, Ombline, ainsi que vous, chers amis. Bien évidemment, je vous retrouve demain à partir de 15h. Et dans 3 minutes à peine, il sera temps de retrouver Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Deux tontons très comiques aujourd'hui, mon cher Carl.
Mon cher Olivier, aujourd'hui je suis en compagnie de Philippe Chevalier et de Raquel Garrido dans le rôle de Régis Laspalès.
Deux tontons flingueurs extrêmement drôles aujourd'hui chez Carl Zéro à partir de 16h. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, ensoleillée bien évidemment, et je vous retrouverai avec un grand plaisir demain à partir de 15h. Au revoir.